Chapitre 5. Amusement varié. La petite Lily se prépara joyeusement à son premier bain. Elle prit des mains de Mariette le paquet contenant le petit costume bleu à galons blancs, le bonnet de toile cirée où l'on allait enfermer ses longues boucles dorées et les espadrilles. Hélène avait la poupée nageuse dans une boîte. Et Marcel, tout fier d'avoir pris quelques leçons de natation les années précédentes, assurait que, si on le laissait faire, il irait bien tout seul jusqu'au grand bateau dont la silhouette se découpait à l'horizon. On trouva deux cabines voisines, et les enfants se dépêchèrent à qui serait le plus tôt prêt. Malgré le temps passé à rire, ils étaient déshabillés avant le reste de la famille. On s'était amusé à se baigner en bande. Enfin, voici tout le monde. Marcel et Alice courent si vite dans le sable qu'ils arrivent les premiers sur la plage humide. Le baigneur les prend chacun par la main. À peine si la vague avait mouillé leurs petits pieds, que Lily déclare qu'il y a trop d'eau et que jamais elle n'ira se noyer là-dedans. Le baigneur. Ma petite demoiselle, vous ne vous noierez pas. Je vais vous prendre dans mes bras et vous tremper comme dans une baignoire. Votre cousin n'a pas peur, lui. Le voilà qui saute pour rejoindre ses frères. Vous allez voir quelle belle ronde nous ferons. Alice. Je ne veux pas, moi, je suis trop petite. Les poissons m'avaleraient comme la poupée de Julie Popote. Ce mot de poupée rappela aux enfants la nageuse oubliée dans une cabine. Maurice courut la chercher sans en rien dire à Alice, que l'on avait distraite de la pensée du bain en lui montrant de petits coquillages dans le sable. Tout à coup, elle vit, au milieu de tous les autres enfants, la jolie petite Ondine nageant à merveille. Il fallait la voir de plus près, de sorte que, sans s'en apercevoir, elle se trouva à côté d'elle, ne pensant plus à avoir peur. Elle fit ensuite autant de cérémonies pour sortir de l'eau que pour y entrer, et depuis Lily fut toujours très pressée de demander l'heure du bain. Quelques jours après, un matin, le cocher de monsieur de Valry s'avança vers son maître, qui sortait de la maison, et tournant sa toque entre ses doigts. « Si monsieur veut me permettre, j'aurai une petite observation à faire à monsieur. Les chevaux ne gagnent pas ce qu'ils mangent. Si monsieur ou madame ne s'en servent pas, j'aurai beau les promener, ils engraisseront horriblement. » Monsieur de Valry. Très juste cela, mon ami, je vous promets une course pour demain. À ce moment-là, un petit dogue sauta dans ses jambes. Tiens, vous avez amené Raton. Le cocher. Ça ennuyait ma femme de le garder à Paris. J'espère qu'il ne gêne pas monsieur. Monsieur de Valry. Du tout, mais je suis étonné de ne l'avoir pas encore vu avec Maurice, qu'il sifflait pour s'en faire accompagner dès que nous montions à cheval à Paris. Du même pas, monsieur de Valry alla rejoindre ses enfants, qu'il voyait dans une tonnelle, en train de prendre une leçon d'anglais avec Miss Lagy. Mes enfants, je viens vous prévenir que le cocher dit que les chevaux vont tomber malades s'ils ne marchent pas davantage. Il faut faire demain une course en voiture. Léon. Bien dit cela, papa. J'aime à courir le pays avec d'autres jambes que les miennes. Monsieur de Valry. Elle est connue, ton opinion, mon garçon. Maintenant, travaillez ferme aujourd'hui, car demain, on ne prendra pas de leçons. Je vais m'entendre avec votre mère pour savoir où nous irons. Pendant que monsieur de Valry s'éloignait, Hélène et Blanche se mirent à discuter sur le côté où elles désiraient aller. L'une voulait que ce fût dans la direction de Cabourg, l'autre dans celle de Honfleur, deux points tout à fait opposés. Les parents décidèrent d'abord qu'à cause de la chaleur, on partirait de bonne heure, et ensuite que ce serait pour une promenade en forêt. En passant, on s'arrêterait à Notre-Dame-des-Bois pour y commander le déjeuner, car l'ermite de l'endroit est un restaurateur. Dès 6 heures, tout bruissait dans la maison. Les enfants chuchotaient d'un lit à l'autre, en mettant leurs bas. Puis les premiers prêts coururent frapper aux portes restées fermées, et les persiennes en s'ouvrant de tous côtés, réveillèrent quelques oiseaux encore endormis dans l'arbre voisin. Le soleil, lui aussi, semblait sommeiller, tout enveloppé de brouillard comme d'une gaze blanche. « Est-ce qu'il ne fera pas beau aujourd'hui ?» dit piteusement Hélène à Maurice qui venait d'entrer. « Ce serait vraiment du guignon. » Maurice, tu ne t'y connais pas, il fera un temps superbe, même très chaud. Je vais préparer un costume de toile. Quelle chance de n'être pas emprisonné dans l'uniforme. » Lily, montrant sa petite tête à la porte. « Moi, j'aime mieux ton habit à boutons d'or. T'as l'air d'un militaire. » Blanche. « Comment? Tu es déjà levée? Mais nous ne partirons pas avant 8 heures. Tu aurais pu dormir 1 heure de plus. Ah, elle est en chemise de nuit et pieds nus. Sa cousine, grande et forte pour son âge, allait essayer de la reporter sur son lit quand arriva dans le corridor la bonne qui la cherchait. À 8 heures précises, le break était devant la véranda. Les chevaux piaffaient et Raton, le chien du cocher, les excitait encore par ses joyeux aboiements. On mit dans le coffre de la voiture un pâté et des volailles froides pour ajouter aux provisions, peut-être un peu trop frugales, que l'on trouverait à Notre-Dame-des-Bois. Il n'y a pas loin de Trouville à ce joli endroit, et pour s'y rendre, on traverse le vieux bourg où quelques maisons sont encore groupées autour de la vieille église abandonnée. Lorsqu'on s'arrête devant la balustrade en bois, l'hôtelier, le classique bonnet de coton à la main, vous offre ses services. Ces messieurs et ces dames désirent peut-être une tasse de lait. Non, c'était afin de commander un déjeuner pour 11 heures que la voiture s'était arrêtée. Les vivres de renfort furent déposés et formèrent un bon fond. On y ajouta une friture d'équille, une omelette au lard, et il fut promis un de ces fromages à la crème, exquis, à faire faire plusieurs lieux à un gourmand pour les savourer. Toutes les mesures une fois prises, clic-clac, les chevaux repartent. Raton aboie et les enfants font entendre 1000 exclamations joyeuses. Elle fut charmante, la promenade en forêt. Lorsque les montées étaient longues, on descendait de voiture et chacun s'éparpillait, les enfants pour cueillir des fleurs, les grandes personnes à la découverte d'un point de vue. Nul ne songeait à s'informer de l'heure. Ce fut la fin qui, la première, donna le signal de retourner à Notre-Dame-des-Bois. Sous les arbres, une grande table était dressée et bien garnie. Une gentille petite fille, aux cheveux blonds, pouvant avoir 7 à 8 ans, montait la garde tout alentour pour écarter les poules indiscrètes. Elle ne se serait fait aucun scrupule de sauter sur la nappe et de picorer dans les plats. En voyant revenir la voiture, l'aubergiste donna l'ordre de battre l'omelette et de faire chauffer la friture. Bientôt il y eut dans les deux poêles le plus alléchant petit gazouillement. Tout le monde était groupé auprès de la table en attendant le moment d'y prendre place. Le cocher était parti dételer et Raton l'avait suivi. Tout à coup des cris rauques, étranges, effrayants, sortent de la maison. Et presque en même temps parut un chat, le poil hérissé, l'œil en feu, poursuivi par le petit dogue. L'animal affolé bondit sur la table et tomba juste au milieu de la jatte à crème où il resta un moment tout ahuri. Ce bain d'un nouveau genre le calma, d'autant plus que M. de Valry l'avait d'un coup de canne débarrassé de son ennemi. Il en sortit lentement, le poil noir tartiné de blanc, collé sur ses flancs, tiré sur sa tête, et il se léchait les moustaches d'une façon si grotesque que, malgré la catastrophe, ce fut un fou rire général. L'aubergiste, lui, ne riait pas. Il fallait réparer le désastre du couvert avant de servir, et l'omelette était prête, le poisson dans la friture. Cependant, la servante se démena si bien que le déjeuner fut commencé sans retard fâcheux. Maurice. Qu'est-ce que je vois là-bas? La drôle de voiture. Avec quoi est-elle couverte? Quel est le singe qui l'a conduit? Jamais je n'ai rien vu de pareil. Madame de Valry avait la vue basse, elle mit son lorgnon, pendant que tous les autres yeux de la famille se tournaient du côté où un bruit de roue annonçait l'arrivée du curieux objet. C'était une petite voiture, ressemblant à un de ces berceaux d'osier dont on se sert pour les enfants chez les pauvres gens. La partie formant capote était couverte d'une toile à matelas, à carreaux rouges et blancs, et assez élevée pour abriter une sorte de siège où s'asseyait le conducteur de la voiture. Un petit âne gris, attelé d'une façon très primitive, presque entièrement avec des cordes, faisait manœuvrer les 4 roues de ce singulier carrosse. Un homme d'une 60aine d'années en descendit. Il était si maigre, si ratatiné, que sa mesquine personne flottait dans son costume en nankin. Sa figure, sans un poil de barbe, disparaissait presque entre une énorme cravate blanche montant jusqu'à la bouche et un bonnet de soie noire débordant sous un chapeau gris haut de forme. Ses petits yeux étaient perçants sous des lunettes d'or. Il descendit de voiture, attacha la bride du baudet à l'arbre voisin et déploya un parasol. Oh, mais un parasol incroyable pour quiconque ne l'a pas vu. C'était un composé des jupons de sa grand-mère en bandes de couleurs différentes, soit gorge de pigeon, pompadour, nuance aurore, etc. La famille de Valery regardait avec ahurissement ce singulier personnage, et M. de Valery le faisait d'autant plus attentivement qu'il lui semblait, dans un souvenir vague, l'avoir vu quelque part. Lui s'avançait du côté de la table, récitant à haute voix quelque chose en latin, sans avoir l'air de soupçonner qu'il y eût des personnes devant lui. Tout à coup, son pied heurta une pierre, il trébucha, et cherchant un point d'appui, saisit la chaise de la petite Lily. La chaise peu solide n'offrit aucune résistance, et le nouveau venu roula d'un côté et l'enfant de l'autre. Tous deux n'avaient aucun mal. Madame de Valery releva le bébé pendant que son mari et ses fils s'empressèrent autour de l'étranger qui était resté à plat ventre, soulevant sa tête pour reconnaître la situation. D'un air piteux, un peu appuyé sur Maurice, il se replaça sur ses deux jambes et, après une légère hésitation, s'avança vers M. de Valery en s'écriant « Oh ! Étonnant, surprenant, surprenant, extraordinaire !» Puis s'inclinant « N'est-ce pas à M. de Valery que j'ai l'honneur de parler ?» Chose bizarre, en effet, ce singulier monsieur, qui se nommait Dumont, n'était pas un inconnu. M. de Valery se souvint très bien l'avoir vu dans sa jeunesse, chez son père, qui était l'homme d'affaires de sa famille. Après avoir renouvelé connaissance, il ajouta « Je vous présente ma femme et mes enfants. » M. Dumont salua jusqu'à terre en retirant son bonnet de soie noire. Sa tête ainsi dépouillée ressemblait à une grosse noix de muscade. Ce fut Léon qui en fit tout bas la remarque à Hélène. « Monsieur de Valery, expliquez-moi, monsieur Dumont, comment il se fait que vous soyez à Trouville. Êtes-vous venu prendre des bains de mer ?»« Monsieur Dumont. Non, monsieur, je suis maintenant fixé dans ce pays. J'ai acheté une maison située à 2 lieues d'ici, et j'y habite avec ma femme et mon fils. » Madame de Valery. « Comment se nomme votre fils? Quel âge a-t-il ? » Monsieur Dumont. « Il s'appelle Jacques. Il a 10 ans, parle latin depuis longtemps et est dans les livres toute la journée. » Léon. « Pauvre garçon !» Monsieur Dumont n'avait pas entendu ce cri si naturel du jeune paresseux. Il invitait Monsieur de Valery et son honorable famille à venir le visiter à sa propriété. Monsieur de Valery en fit la promesse, et tandis que Monsieur Dumont regagnait sa voiture, lui-même donnait l'ordre d'atteler la sienne. Quand toute la famille y fut réinstallée, « À Bois-Fleury » dit-il au cocher. « À Bois-Fleury, papa? Est-ce que les Maumères sont arrivés? Mais oui, depuis 2 jours. « Et vous ne me l'aviez pas dit ?»« Comme si j'étais obligé de vous dire tout ce que je sais, » reprit M. de Valery en riant. Les chevaux, très reposés, ayant bien déjeuné eux aussi, partirent au grand trot. Raton, plus gai que jamais, gambadait tout autour, et les enfants bavardaient en regardant comment s'y prenait l'institutrice pour fabriquer un éventail avec de minces branches de feuillage. Il était destiné à Hélène. Blanche réclama le sien. Miss Lagy promit de le faire au retour, car à travers la forêt, la course n'étant pas longue, on se trouvait déjà devant le perron d'une jolie maison. De tous côtés, arrivèrent ses habitants, grands et petits, au-devant des visiteurs, et à travers les allées, sur le tapis vert de la pelouse, sous les bois touffus, comme au bord de la mer, il y eut pendant 2 heures une animation, une gaieté à réjouir les oiseaux dans les arbres et les poissons sous les flots.